J'avais à cœur de vous souligner quelque chose qui s'est passé ce matin, n'est-ce pas? Donc on a vu Lucas, jeune homme, 13 ans, qui a des idées claires sur qui est Christ, sur ce que Christ a fait aussi dans le monde, et sans doute pour sa vie aussi. Et puis on a eu Madame Miel, Antoinette, qu'on apprécie aussi beaucoup avec nous, 88 ans, je me trompe pas, on a le droit de dire un peu votre âge quand même, hein. Et puis qui a prié, merci Seigneur pour ta fidélité tout au long des années, dans le quotidien tout au long des années. C'est quelqu'un de 88 ans qui prie comme ça, qui marche fidèlement avec le Seigneur depuis de nombreuses années. Et c'est beau de voir les deux parties un peu de la vie, n'est-ce pas? Et Antoinette, elle nous a même dit que voilà, ça commence peut-être jeune, mais de toute façon, peu importe, parce que c'est la vie éternelle qui est en vue en fait. Donc une vie qui ne termine jamais dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il y a là vraiment de quoi nous réjouir et prier donc vraiment pour nos enfants, ceux qui sont là de l'autre côté. C'était une très bonne idée, une très bonne initiative, Paul, de prier pour ça maintenant. Alors peut-être vous allez dire, ouf, je ne sais pas, mais on arrive à la fin de notre série à la première lettre de Jean. On a fait 8 étapes dans cette lettre. Et c'est la dernière pour aujourd'hui. Un des caractéristiques un peu de Jean, c'est qu'il est cyclique. Donc c'est pas toujours évident ni à prêcher, ni à peut-être à lire, parce qu'on a l'impression qu'il revient sans cesse sur les mêmes choses. Mais en même temps, s'il revient sans cesse sur les mêmes choses et que ça, c'est Dieu qui l'a inspiré, c'est-à-dire c'est Jean dans son humanité qui écrit, mais c'est aussi Dieu qui est en train de souffler cette parole-là à Jean. Et s'il revient sans cesse sur les mêmes choses, c'est qu'il faut absolument qu'on les capte, qu'on les saisisse pour notre propre vie, que on essaie à enfoncer ça au plus profond de nous-mêmes, dans nos tripes, dans notre cœur, pour le mettre aussi en pratique. Et donc on arrive au chapitre 5 maintenant, et ça va être un peu la conclusion. Je crois que Jean, vu que c'est un peu cyclique, ça résume aussi un certain nombre d'idées, et j'aimerais donc avec cette prédication résumer finalement toute la série qu'on a fait, qu'on avait intitulée « La communauté chrétienne authentique ». Qu'est-ce que c'est la communauté chrétienne authentique? Et nous vivons à une époque où le design des objets de la vie courante est super travaillé. Donc, il y a des gens qui passent des heures à regarder la forme des objets, la couleur des objets. Il faut que ça plaise à nos yeux, que ça paraisse robuste et en même temps raffiné, sophistiqué. Et comme vous êtes des acheteurs aussi comme moi, vous êtes conscient que la réalité est bien loin, parfois, d'être aussi solide qu'il n'y paraît. En fait, même, on vit dans une société de l'obsolescence programmée. Vous avez peut-être vu déjà des programmes comme ça à la télé, c'est-à-dire... En même temps qu'on conçoit un super design, en même temps on prévoit que l'appareil ne va pas durer plus que 5, 6, 7 ans peut-être. Donc l'avantage pour les commerçants, c'est qu'ils peuvent vous vendre une extension de garantie de 2 à 5 ans qui ne va pas vous servir. Et en fait, de toute façon, au bout de 7 ans, vous allez devoir changer d'appareil de toute façon. Et donc, c'est ainsi que le système fonctionne, n'est-ce pas? C'est dans cette sorte de culture-là que nous sommes plongés actuellement. Et le problème dans tout ça, dans ce marketing, c'est nous. C'est notre propre faiblesse, notre propre besoin d'être rassuré en regardant juste l'aspect extérieur des choses. Ou notre orgueil, j'ai acheté le meilleur parce que c'était le plus beau, c'était le plus sophistiqué. Mais vous le savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui est solide? Je vous invite à tourner alors maintenant nos regards vers ce dernier chapitre de 1 Jean, pour chercher là où nous avons un terrain solide pour construire notre vie. Non seulement notre vie personnelle, et il y aura des rappels pour nous personnellement, mais rappelez-vous que Jean, il parle à toute une communauté. Il y a le « nous » qui revient sans cesse. Et donc c'est toujours dans l'écriture à un peuple que Dieu est en train de s'adresser. Et Dieu s'adresse à nous ce matin en tant qu'église aussi de Cavaillon, tout particulièrement, et nous en tant que chrétiens ensemble. Donc, qu'est-ce que la communauté chrétienne authentique? Voilà, un dernier rappel avant de passer à une autre série de prédications. Et je vais inviter Nathalie à me rejoindre pour la lecture du passage.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui fait naître aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'a pas foi en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande et il lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de demander. Toute injustice est péché, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui naît de Dieu le garde, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles.
Merci. Voyez les versets, je crois, 19, 20, 21, qui sont une sorte de conclusion, en fait, pour tout l'évangile, et surtout le verset 20, l'évangile, cette lettre de Jean, et voyez surtout le verset 20, cette insistance, trois fois, il y a le mot vrai, le vrai Dieu, nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ, et nous connaissons celui qui est le vrai. Et bien sûr, la contrepartie de ça, c'est le verset 21. Alors, gardons-nous de ce qui est faux, les faux dieux, les idoles, les mensonges. Il y a cinq parties, un peu, je crois, à ce qu'on va faire. Ouh, ça fait peur, hein. Et je crois, donc, ça résume un petit peu tout ça, et ça nous amène à voir, donc, qu'est-ce que c'est cette communauté chrétienne authentique? Ben, la première chose, on voit ça dans les versets 1 et 2, c'est une communauté qui aime Dieu. Et tous ceux qui sont nés de lui, la communauté chrétienne authentique, si l'église de Cavaillon veut être authentiquement chrétienne, biblique, attachée au Seigneur, elle va aimer Dieu en premier et tous ceux qui sont nés de lui. Et ça, c'est un miracle. C'est un amour qui sort de l'ordinaire. Il est différent de celui qu'on peut observer entre les adhérents d'un club de foot, qui se rassemblent, qui font des activités en commun, qui sacrifient peut-être du temps, mais pour une activité commune. Et puis après, ils sont vite repartis dans le reste de la semaine pour leurs différentes vies. Et il n'y a pas cet échange-là au quotidien, il n'y a pas cette affection-là pour les autres en dehors de cette sphère du football, peut-être. C'est différent de celui qu'on peut observer entre les participants à une même religion, les adhérents à une même religion. Vous savez que dans l'islam, par exemple, il y a un concept qu'on appelle l'umma, donc qui est le rassemblement, cette vision globale de tous les musulmans à travers la planète. Et il y a cette notion de solidarité. Et des fois, on est repris, pour être assez vrai, en fait. Hein. On voit dans cette culture-là, dans cette religion-là, certains liens de solidarité qui fonctionnent, des fois mieux que dans l'église. Il y a des cultures qui influencent positivement dans un sens ou dans un autre. La culture africaine met l'accent sur la solidarité, sur l'entraide, sur la communauté. Et on discutait de ça ce week-end avec Lucie et Steve, mais il y a d'autres cultures, je pense que c'est le cas en Provence, donc dans notre contexte à nous, où l'emphase est mise sur l'individualisme. Et chacun se débrouille, chacun vit pour lui. Derrière ces murets, ces jardins, derrière les barrières, les portails qu'il faut passer, chacun reste un peu cloisonné derrière ces murs. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes bien sûr dans cette culture, mais nous ne sommes plus de cette culture. Nous sommes plus issus de cette culture. Nous sommes nés de Dieu maintenant, nous dit la lettre de Jean. Notre culture, elle est façonnée maintenant par la parole. Et notre communauté, notre famille, dans le sens spirituel, mais c'est un sens fort. Notre communauté, c'est celle des frères et des sœurs en Christ. De tous ceux qui sont nés du même Père. C'est en ça que c'est différent. C'est centré sur le fait que Jésus est le Christ, le roi choisi, le sauveur promis, que par lui, nous avons accès alors à la famille de Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et celui qui aime, celui qui fait naître, c'est-à-dire Dieu le Père, par Jésus-Christ, donc il aime d'abord le premier-né d'entre tous, Jésus-Christ, dont on vient de célébrer, de chanter la gloire, mais il aime aussi tous ceux qui sont nés de lui. Et on peut se regarder là, les uns les autres, pour la plupart. Un même Père, n'est-ce pas? Donc une même famille. Et vous connaissez aussi cette expression, tel Père, tel Fils. Donc nous sommes appelés à ressembler à notre Père Céleste, à l'image de Jésus. C'est Jésus le standard. C'est Jésus, l'homme qui est aussi le Christ, c'est lui que nous cherchons à imiter, à ressembler. Et Jean nous dit qu'il n'y a rien d'insurmontable ici. Il n'y a rien de surmontable. Ce n'est pas un fardeau pour nous. Et Jésus n'est pas tant que ça dans une catégorie différente de nous. Et juste pour rappel, ce passage d'Hébreu qui nous rappelle que Jésus-Christ a été tenté en tout point comme nous dans son humanité. Donc je ne sais pas avec quoi tu es en train de lutter aujourd'hui, ce matin, pour ressembler, pour être un fils, une fille à l'image de ton père, pour bien porter sur toi l'empreinte, la marque de la famille de Dieu à laquelle tu appartiens, pour manifester cet amour vis-à-vis des autres frères et sœurs. Mais regarde, Christ était pas si différent que toi. Il a été aussi, lui, tenté, mis à l'épreuve. C'était pas facile. Un autre passage nous dit qu'il a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance, tout fils qu'il était. Toutefois, sans péché, c'est vrai. Et donc, c'est un espoir, c'est une chose qui doit nous attirer. Donc, si c'est bien le cas que nous sommes nés de Dieu, nous sommes adoptés dans une seule famille. Il n'y a pas 36 familles. Et en fait, l'épèque n'est juste qu'une manifestation de cette grande famille. C'est le lieu privilégié où on va pouvoir concrètement mettre en œuvre cet amour. Moi, j'aime bien Steve et Lucie et Rachel, que j'apprends à connaître depuis ce week-end. Mais s'ils sont à Sheffield, je vais avoir beaucoup moins d'occasions de manifester mon affection fraternelle vis-à-vis d'eux. Donc, deux fois, on se Skype, on se téléphone, on prie les uns pour les autres. Mais au quotidien, semaine après semaine, jour après jour, ben c'est à vous, d'abord, que mon affection doit aller. À Paul, à Éléonore, à André, à Antoinette, voilà, vous tous qui êtes là dans l'Église. Et vice-versa. Moi, je suis là avec vous tout au long des jours, des semaines. Et donc, voilà, on doit prendre soin les uns des autres. Vous remarquez que c'est le choix de Dieu, n'est-ce pas? De la même manière que c'est les parents qui décident la venue d'un enfant, et c'est pas l'inverse, c'est pas l'enfant qui décide, moi je vais arriver, bouffe, dans la famille. Normalement, il y a un accord entre le papa et la maman. En tout cas, pour Dieu, c'est sûr, c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait naître. Et donc, dans ce sens-là, on doit regarder son frère et sa sœur comme étant là par la volonté de Dieu. Et ça doit aussi changer notre regard, notre manière d'avoir de l'affection pour lui. C'est vrai, nous, on l'a pas choisi. Et des fois, dans la fratrie, il y a un peu ça. Ok, moi, j'ai pas choisi mon frère. Des fois, j'aurais bien aimé qu'il soit pas là, mais c'est pas comme ça. Il est là. Parce que les parents se sont aimés et ce frère-là est aussi le produit de l'amour, n'est-ce pas, des parents. La même manière pour Dieu. puisqu'il nous a rassemblés, nous sommes les uns les autres, si nous sommes nés de Dieu, le produit de l'amour de Dieu, et nous devons donc nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Rappelez-vous notre dépravation, notre état de rébellion était bien réel, était total. Nos chances de plaire à Dieu en nous-mêmes étaient nulles. Pensez juste à un moment à votre vie avant de connaître Christ, si vous avez des souvenirs de ça. Quelles étaient vos motivations? Quels étaient les rêves que vous poursuiviez? Quels étaient les objectifs que vous aviez pour votre vie? Quels étaient les péchés avec lesquels vous luttiez, qui vous enténébraient, qui vous liaient? Et tout en goûtant à cela, vous étiez en même temps dans votre conscience meurtrie, en sachant que ce n'était pas une bonne chose. Et maintenant, voyez de quel amour Dieu, le Père, nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants par Jésus-Christ. Et si nous sommes ses enfants, si en tant que communauté, en tant que famille, nous sommes nés de Dieu, alors, la deuxième chose, versets 3 et 4, nous allons être une communauté, une famille, qui obéit à son papa. C'est normal, n'est-ce pas? Une communauté qui obéit au commandement de Dieu. C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir juste cet amour conceptuel, un peu virtuel. Ah, mais je l'ai là, dans ma tête, t'inquiète pas, c'est dans mon cerveau. J'ai bien compris. Non, c'est pas juste ça. C'est aussi en œuvre et en vérité. Donc, chercher un membre de l'Église, par exemple pour le culte ou une rencontre, même si ça va impliquer des kilomètres supplémentaires ou de partir une heure plus tôt que ce qui était normalement prévu, nous le faisons. Parce que nous mettons un point d'honneur à obéir concrètement, en œuvre et en vérité, à notre Père Céleste. Dieu nous a aimés en se donnant sacrificiellement pour nous. Et nous, de la même manière, nous aimons de manière sacrificielle. Qui ici veut aimer sacrificiellement? Levez pas trop vite les bras. Ok, naturellement, et moi inclus, personne. Pourtant, Dieu dit qu'il est possible d'obéir, de suivre ce chemin, non plus comme un fardeau, non plus par crainte. Oulala, si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je vais avoir la fessée. Bien que, il arrive que Dieu nous corrige, il nous corrige pour notre bien, comme nos pères terrestres nous corrigent pour notre bien, comme ils le jugent bon, des fois ils se trompent. En tout cas, pour Dieu, c'est sûr, il ne se trompe jamais. Mais c'est pas cette crainte-là, parce qu'on donc on redoute pas notre Père Céleste quand il nous corrige, on sait qu'il nous aime, on sait que dans ses corrections, c'est pour un bien pour nous. Nous cherchons pas à obéir aux commandements de Dieu non plus pour gagner la faveur de Dieu, comme s'il nous fallait nous œuvrer pour obtenir cet amour de Dieu, comme si c'était pas comme quelque chose déjà acquis en Jésus-Christ. Mais Jean nous rappelle que nous sommes rendus capables, en fait, par Jésus et l'Esprit de Dieu qui nous donne une bonne compréhension de l'Évangile, de ses implications. Et remarquez, particulièrement, il insiste que la victoire, elle est dans notre foi. Verset 4. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Donc il arrive à obéir à Dieu, parce que le monde, c'est tout ce qui nous empêche d'obéir à Dieu, c'est tout ce qui nous pousse à rebeller contre Dieu. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. La victoire est particulièrement dans notre foi. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Jean? La foi, vous le savez, c'est la confiance en Dieu. Mais c'est pas une confiance qui doit être vague de nouveau. Une confiance un peu confuse. Non, c'est une confiance dans les paroles particulières de Dieu, précises, dans ses promesses. Une confiance dans ses commandements. Quand Dieu demande, exige cela de moi, c'est parce que c'est une bonne chose pour moi. Donc la foi, elle vient du commandement lui-même, de la parole prononcée par Dieu lui-même. Si nous lisons cette parole, ces commandements, et que nous imitons toute notre confiance pour agir en accord avec elle, alors nous sommes en communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, ça produit la joie, ça produit un enthousiasme en nous, ça nous produit en nous le désir de suivre Christ. Donc la foi, elle est aussi basée, fondée sur un contenu. Il y a des choses qu'il faut croire, si vous voulez. La première chose à laquelle Dieu s'adresse, ce sont nos pensées, nos raisonnements, les affections profondes de notre cœur. Parce que vous savez comme moi que nos pensées dirigent souvent nos affects, nos émotions. Et nos émotions, alors, après, elles nous poussent. Elles sont des moteurs puissants pour nous faire agir dans telle direction ou dans telle autre direction. Si j'estime que telle personne ou telle chose est précieuse, mon affection va alors me pousser à mettre cette personne en position très importante dans ma vie. Donc, la foi, c'est la confiance dans les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu s'adressent en premier à notre vision du monde, de ce que nous sommes nous-mêmes, de qui est Dieu. Et ce que Dieu est occupé à faire, c'est de renouveler notre intelligence, notre pensée, pour que, justement, tout le reste de notre vie, suivant nos émotions et puis notre force que nous mettons en œuvre pour agir de telle ou telle manière, soit dirigé par cette foi dans les promesses, dans les commandements de Dieu. Vous pourrez lire chapitre 2, versets 14 à 17. Ceux qui prennent des notes, peut-être, vous pouvez voir comment ça va appuyer ce que je viens juste de dire. Donc, on vient de voir une communauté qui aime Dieu, qui aime ceux qui sont nés de lui, donc qui obéit au commandement de Dieu. Ce commandement-là, ils sont basés sur des promesses tout à fait concrètes. Et voilà le troisième point, le plus grand point, en fait, que Jean est en train de développer dans ce passage. La plus grande promesse, la plus glorieuse, la plus fondamentale pour tout le reste de notre vie, c'est l'évangile révélé en Jésus-Christ. Et donc, nous, si nous voulons être dans le vrai, nous devons être une communauté qui croit fermement à l'évangile révélé en Jésus-Christ. C'est le centre de tout ce passage, n'est-ce pas? Et Jean développe encore tout un enseignement ici, des versets 5 à 12. Il y aurait de la place pour juste un message sur ces versets. Ils nous redisent de nouveau l'évangile en quelques mots, la raison pour laquelle nous sommes en vie, et je ne parle pas simplement physiquement, mais pour la plupart d'entre nous, ça signifie que notre vie spirituelle, elle découle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que Jean est en train d'assurer ceux à qui il écrit, c'est-à-dire des chrétiens, nous avons la vie éternelle déjà maintenant. Il le dit, n'est-ce pas ? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors comment ? Comment avoir la vie ? Comment avoir le Fils ? Eh bien, il faut croire. Et ça, c'est une victoire sur le monde, sur le péché. Il faut croire que le Messie promis, c'est Jésus. C'est pas un autre. C'est pas Marc Etienne, c'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas la télévision, c'est pas David Pujadas, je ne sais qui autre encore. Le Messie promis, vous le cherchez, c'est Jésus. C'est lui. Il y en a un seul. Le Fils de Dieu, venu en chair pour nous sauver. Il vient avec l'eau et avec le sang. Alors là, c'est un passage un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait ? C'est pas qu'il essaye, il nous dit, c'est nous qui essayons de comprendre. Jean dit que Jésus vient avec l'eau et avec le sang. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, verset 6, par l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Je pense que Jean est en train de faire référence au propre baptême de Jésus-Christ. Pourquoi Jean pointe vers cet événement-là dans la vie de Jésus? Parce qu'il y avait des personnes à l'époque qui étaient en train de mettre en doute que Jésus soit vraiment venu en chair, comme un être humain. Que Dieu ait bien voulu s'identifier à ce point-là, à des hommes en chair, en os. Et ils avaient cette mauvaise conception, ces gens-là, que la chair, le corps physique était mauvais et que tout ce qui était spirituel, ça pouvait être pur. Mais que de toute façon, le corps, donc le fait qu'on mange, qu'on boive, qu'il y a du sang qui coule dans nos veines, qu'on a de la sueur, etc., tout ça, c'était des choses qui étaient en elles-mêmes mauvaises. Donc qu'un Dieu puisse s'identifier à ce point-là aux humains, c'est... Non, il disait ça, c'est faux. Et donc... Si vous vous rappelez, Jean-Baptiste, au moment où il voit arriver Jésus, il dit « Mais non, mais pas toi. Toi, tu es innocent de tout péché. Tu n'as pas besoin de passer par la repentance, d'admettre devant Dieu que tu es pécheur, que tu as besoin de son pardon. Donc, pas toi. » Et puis Jésus insiste, il dit « Non, non, laisse faire. Il faut que ce soit comme ça. » Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de s'identifier, bien qu'il n'ait pas besoin, en réalité, d'être baptisé. Il veut être comme les humains qu'il vient sauver, qui eux, c'est-à-dire vous, moi, nous avons besoin, nous, de repentance. Nous avons besoin d'être lavés de nos péchés. Donc, le fait que Jean insiste sur le baptême de Jésus, c'est pour montrer à tous ceux, les détracteurs, que Jésus était bien Dieu venu en chair, venu en tant qu'homme, s'identifiant à celui, à ceux et celles qu'il venait sauver. Peut-être aussi, et ça, je pense que ça vaut la peine d'être souligné, ça fait référence à Ézéchiel 36, un passage dans lequel Dieu promet, au verset 24 du chapitre 36 d'Ézéchiel, « Je vous retirerai d'entre les nations. » Donc il parle des temps futurs pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. « Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. » Verset 25, « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Tiens, la même chose qu'on lit à la fin du passage de 1 Jean. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » Ça ressemble pas mal à ce qu'on est en train de lire ici dans 1 Jean. Donc Dieu annonce qu'il viendra un temps qui s'accomplit en Jésus-Christ où il va avoir une eau pure qui va laver. Et je pense que c'est une vision spirituelle des choses, c'est-à-dire on est lavé dans notre conscience, on est lavé dans notre cœur de nos péchés. Bien sûr, ça pointe aussi un peu vers le baptême que je pense, pour la plupart, nous avons pratiqué ça. Non pas parce que lui-même, le baptême, produit un changement en nous, mais parce qu'il, justement, est le signe, l'image, le symbole de cette purification apportée par Jésus. Ok, j'espère que j'ai pas été trop long. Vous comprenez maintenant l'eau? Mais Jean, il dit, c'est pas juste l'eau, c'est l'eau et le sang. Christ s'est identifié à nous en tant qu'humain, pas juste en venant et disant « Voilà, moi j'ai fait tout bien, j'ai obéi en tout point au Père Céleste, maintenant faites de même et débrouillez-vous. » Et non, Christ s'est identifié à nous, pécheurs, en allant jusqu'à la croix, en allant jusqu'à verser son sang, en buvant la coupe de la colère de Dieu à notre place. C'est pour nos rébellions, c'est pour nos fautes, c'est pour mes péchés que Christ est mort. Et donc il n'est pas juste venu avec l'eau, mais il est venu avec le sang. Quelle bonne nouvelle! Sinon, il n'y avait aucun moyen d'être sauvé. Il prend notre place, même dans la mort que nous méritions devant Dieu. Quelle grâce! Et c'est un fait historique, c'est un fait biblique, attesté par un apôtre qui était là, qui était témoin. Il était devant la croix avec Marie, si vous vous rappelez, la mère de Jésus. Il était en train de voir le sang, les gouttes de sang en train de tomber de la croix. Et Jean nous dit, c'est plus que ça encore. C'est même pas moi, c'est même pas ce fait historique, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage que cela est vrai. En fait, l'Esprit de Dieu prend cette réalité historique, biblique, et maintenant il l'applique dans le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne. Si nous sommes nés de nouveau, nous entendons ce témoignage en nous. Nous le recevons, il n'y a pas d'objection en nous. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est naturel, mais c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça, qui nous pousse à mettre toute notre confiance dans cette vérité-là, dans le sacrifice parfait de Christ à la croix. Si ce n'est pas le cas, si ce que je suis en train de dire ce matin semble une bien belle histoire, mais très loin de vous, si peut-être ça... Ça ne vous parle pas, vous ne ressentez pas rien du tout ici. Je voudrais vous inviter à relire un évangile, peut-être l'évangile de Jean, et à chercher, est-ce que vraiment, ça c'est pour moi? Peut-être prier le Seigneur, Esprit de Dieu, Dieu le Père, s'il te plaît, si c'est vrai pour moi, fais que ce témoignage-là résonne dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, que je sois certain, convaincu de cela. Si nous recevons le témoignage des humains, nous dit l'apôtre Jean, verset 9, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Il ne rend pas témoignage à nos œuvres, il ne rend pas témoignage à nos efforts. Il n'est pas en train de nous dire « c'est bien, continue et tu vas gagner ton salut ». Il est en train de rendre témoignage à son Fils. C'est lui le seul chemin. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. C'est plus extérieur à nous. On n'est pas en train d'observer de loin en se disant « peut-être je vais adhérer ». C'est en nous. Et si nous avons alors ce témoignage en nous, quatrième point, versets 13 et 15, nous pouvons être pleins d'assurance. Je relis juste les versets. « Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. L'assurance que nous avons auprès de Dieu, c'est que si nous demandons quoi que ce soit, selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous, avons ce que nous lui avons demandé. » N'est-ce pas incroyable de voir cette communion, cette proximité, quel ami fidèle et tendre, jusqu'au point où cet ami vit en nous. Nous avons ce témoignage en nous. Et nous pouvons parler maintenant, nous, faibles créatures, des petites poussières, dans un univers immense, nous pouvons nous adresser à Dieu avec la certitude qu'il nous écoute, qu'il nous entend. Et s'il nous écoute, puisqu'il est un Père bon et juste, il va répondre. Il ne va pas être indifférent, il ne va pas être méprisant, n'est-ce pas? Il va donner des bonnes choses à ses enfants. Alors prions, mes frères et sœurs. Renouvelons notre assurance dans la prière. Nous pouvons prier de façon audacieuse, quoi que ce soit. On nous dit 1 Jean, si nous prions quoi que ce soit selon la volonté de Dieu, croyons que ça nous est accordé. Et vous me voyez venir? Qu'est-ce qui se passe le 14 février? Ah, j'aurais voulu. Journée de prière, on est là, on sera présent, on va prier avec audace pour que Dieu continue son œuvre en nous, pour que Dieu continue d'utiliser l'église de Cavaillon pour être un témoignage vis-à-vis de tous ceux du dehors, pour partager ensemble les choses qui nous sont des fardeaux et les amener devant le trône de la grâce de Dieu, pour partager ensemble les joies que nous avons et nous réjouir aussi devant Dieu, car il aime les deux choses. Et là, nous sommes invités de nouveau. L'assurance que nous, communauté, pas nous, juste chrétiens individuellement, les uns à côté des autres, dans le secret de nos chambres, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, de faire ça? Mais il faut aussi que nous soyons une communauté qui prie. Une communauté qui prie pour les autres. Une communauté qui prie pour elle-même. Et peut-être, mon encouragement ce matin, en attendant la journée du 14, c'est que si tu sens qu'il y a des choses qui sont difficiles dans ta vie, s'il y a des circonstances qui semblent un peu compliquées, je veux te rappeler que tu peux avoir cette assurance de venir prier à Dieu. Alors fais-le cette semaine, dans les prochains jours, cet après-midi, prie. Le Seigneur Dieu entend. Nous pouvons être une communauté pleine d'assurance. Et cinquième point, si nous avons de l'assurance pour demander quoi que ce soit, peut-être il y a un doute en nous. Ok, mais si je pêche, comment faire? Parce que je sais bien, j'ai bien compris que Dieu n'aime pas le péché. La mauvaise réponse, ça serait de dire « Oh, c'est pas grave. Puisque j'ai été pardonné une fois, pardonné pour toujours, j'ai plus besoin de m'inquiéter de ça. » On doit tous pardonner, Dieu pardonne tout, chacun est en route, laissons les gens tranquilles. Que Dieu me laisse aussi un peu tranquille, après tout, je vais à mon rythme. Hein. Ce serait une manière de vouloir cacher notre propre péché. Pour être juste, l'inverse aussi peut être vrai. Dénoncer à tout bout de champ, oh là là, toi t'as fait ça qui est pas bien, toi t'as fait ça qui est pas bien, toi t'as fait ça qui est pas bien. Toujours en train de ressortir les choses qui vont pas bien chez les autres ou dans notre propre vie. Comme par exemple ne pas couper son téléphone. Ça, c'est pas bien. Ça peut être aussi une manière de paraître meilleur quand on ne l'est pas. Donc ça, ce serait une mauvaise route. Le risque là, c'est de vouloir baisser la barre En commençant en disant ben, je suis libre de gérer ce péché-là dans le temps qui me convient à moi. Et puis après, on dit ben, en fait, c'est tous les péchés connus. Alors tant pis pour ceux que je ne suis pas vraiment conscient. Et puis je ne cherche pas trop à savoir si j'ai des choses à régler ici, à comprendre davantage. Et finalement, on est en train de toujours baisser le niveau. Mais ce n'est pas comme ça que Jean nous invite à agir. En fait, il nous rappelle que nous devons être une communauté qui ne minimise pas le péché, mais qui le combat. Et donc, la vraie manière de gérer le péché, puisqu'il va y arriver, rappelez-vous, 1 Jean 1,8 et d'autres passages, on va devoir affronter le péché dans notre vie. Il y aura des luttes. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Donc la manière plus authentique, plus vraie, la manière voulue par Dieu, c'est de faire face au péché, non pas d'essayer de le dissimuler, de revenir à la croix avec ce péché, de demander pardon, de chercher la repentance, c'est-à-dire chercher à faire demi-tour, de plus poursuivre dans cette même direction. Si on a compris que c'est une mauvaise direction, que c'est une impasse, c'est un péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, alors on demande pardon et on fait un virage à 180 degrés. On abandonne cette mauvaise attitude, ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions. Mais on vient de le lire. Christ est venu non seulement avec l'eau, mais aussi avec le sang. Nous pouvons avoir l'assurance par Jésus-Christ que Dieu nous entend. Et donc si nous demandons pardon, bien sûr, il aime ça, bien sûr, il nous accueille. Bien sûr, parce que Christ a payé la dette. Nous pouvons être rassurés que nous pouvons être pardonnés. Le chrétien peut pécher parfois, vous et moi, même avec le consentement de notre intelligence, de notre volonté. Mais ensuite, le chagrin et la repentance, normalement, nous submergent, ne nous laissent pas tranquilles. On est comme sur des chardons, on est comme assis entre deux chaises, ça ne va pas. Et la meilleure solution, c'est de revenir à la croix. Il y a ce passage alors un peu énigmatique au verset 16, n'est-ce pas ? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande à Dieu, il lui donnera la vie. Donc, non seulement nous avons besoin de venir nous-mêmes à Dieu pour nos propres péchés, mais des fois, il va arriver que dans la communauté, et particulièrement plus notre communauté va être intensément liée, plus nous allons vivre au quotidien les choses ensemble, c'est un risque, parce que on va voir de plus en plus là où il y a des luttes, chez les uns, chez les autres. Est-ce qu'on devrait redouter ça ? Voilà, honnêtement, moi, c'est pas une pensée naturellement qui m'enchante. Mais en même temps, je vois la sécurité qu'il y a dans le projet de Dieu, de justement pas nous laisser nous dépatouiller nous-mêmes avec cela, et de pourvoir à des frères et des sœurs qui prient aussi pour nous. Et donc, pas forcément dans un premier temps qui viennent nous dire, OK, il y a ça qui ne va pas, mais qui commencent à prier déjà avant. À dire, là, Seigneur Dieu, interviens s'il te plaît. Parle dans son cœur. Peut-être je vais dire une parole, un encouragement à ce frère, cette sœur la prochaine fois. Donne-moi de pouvoir dire les choses de manière sage, sensée, de manière juste. Donne-moi du discernement, qu'est-ce qui est bon de dire. Et donc, Dieu attend que nous prions les uns pour les autres aussi, dans ce sens-là. Il n'attend pas que nous prions si nous voyons quelqu'un qui commet un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de demander. Toute injustice est péché, donc toute mauvaise action, et on peut voir ça, des fois ça arrive, des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes, est péché. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. De quoi est-ce qu'il parle ici, l'apôtre Jean ? Je crois qu'il parle de ceux qui ont été éclairés pendant un temps par le Saint-Esprit, qui ont fait partie de la communauté chrétienne, qui ont adopté pendant un temps le style de vie de la communauté chrétienne, qui ont entendu, qui ont compris suffisamment ce témoignage justement de l'eau, du sang, témoignage de l'esprit même, peut-être à révéler des choses dans leur cœur. Et puis à un moment, ils nient cela. Ils disent, ils rejettent ce témoignage. Et ils préfèrent ne pas écouter ce témoignage et continuer dans une vie qui s'oppose à Dieu, à Christ et à son œuvre. Qui s'endurcit, si vous voulez, loin de la vérité. C'est ce que certains, à l'époque de Jean, ont fait. Jean les appelle des anti-Christ, des gens qui étaient contre Christ, finalement. Bien qu'ils étaient pendant un temps dans l'Église, chapitre 2, verset 19, ils sont sortis de chez nous au bout d'un temps, mais ils n'étaient pas des nôtres, ils n'étaient pas nés de Dieu. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Et leur plus grande erreur à ces personnes-là, c'est qu'ils disent, ils nient que Jésus est le Christ, ils nient que Jésus est le Sauveur, ils nient qu'on a besoin de Jésus seul pour avoir le pardon des péchés. Comme ils refusent ce témoignage, comme ils refusent l'Évangile, ils ne sont pas sauvés, et même pire que ça, ils ont bien compris, donc il n'y a plus rien. Enfin, on peut leur réexpliquer, on peut leur rappeler, mais ils ont déjà compris. Et c'est leur obstination qui est difficile, qui leur empêche d'accéder à ce salut. On ne peut pas prier pour eux parce qu'ils se repentent, parce que la repentance implique une prise de conscience qui amène à demander pardon et chercher à changer d'attitude. Ce qui se passe avec certains, c'est que Dieu leur montre, ils sont éclairés pour un temps, mais ils ne décident pas de suivre cet éclairage. Un peu comme dans la parabole du semeur. Il y a certains terrains, la graine commence à germer, puis les soucis du monde ou les pressions font qu'elle ne produit pas un fruit. La question en suspens dans ça, c'est combien de temps dans la vie réelle? Et je crois que pour adoucir peut-être un peu cette pensée choquante, nous devons nous rappeler verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Verset 17. Toute injustice est péché. Donc il va y arriver qu'on pêche. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc ne nous précipitons quand même pas trop vite. Voilà, peut-être c'est cet avis de sagesse à mettre les gens dans cette catégorie. On ne peut plus rien faire pour lui. Et en même temps, ça doit nous amener aussi à prendre au sérieux le péché, à réaliser que le combat fait rage, mais aussi à remercier et espérer dans la grâce de Dieu. Le miracle d'une nouvelle naissance est vraiment un acte extraordinaire de Dieu. Je voudrais conclure, je ne sais pas quel temps j'ai fait, mais j'espère que ce n'était pas trop long, mais la communauté chrétienne authentique est attachée alors au Dieu authentique et non à des faux dieux. Elle n'est pas en train de suivre d'autres voies que la voie de Christ. Elle ne met pas son espérance dans un autre chemin de salut que Jésus-Christ et la croix. Rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et remarquez, comme j'ai fait souligné au début, le combat fait rage, c'est verset 18. Mais nous avons l'assurance, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai, en Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Peut-être pour illustrer donc cette dernière idée et montrer comment vivre cela de façon concrète, j'ai parlé un petit peu avec Rachel et je vais l'inviter à me rejoindre maintenant pour donner un petit mot de témoignage, pour essayer de comprendre comment ça peut s'appliquer en concret, en réel, dans notre vie. Merci Rachel.
Oui, je me rappelle. Rachel, oui, oui.
Tu es mariée à Malcolm?
Oui, c'est vrai.
Et tu as quatre filles.
Quatre filles. Qui s'appellent. La plus grande, elle s'appelle Hannah. Elle a 8 ans. Et le dernier, Zoé, a 6 ans. Et Abigail a 4 ans. Et le bébé, Esther, a 2 ans.
2 ans. Une belle famille. On peut prier aussi pour Rachel, maintenant qu'on a vu son visage, une sœur en Christ. avec Malcolm. Donc, on va prier sans doute dans les prochains jours pour vous aussi. Ouais. Et donc, on a un petit peu discuté et puis tu nous partageais un peu comment toi tu vivais, ce qu'on a lu ici dans 1 Jean. Mm. Et des fois, on a cette fausse conception, n'est-ce pas, que les idoles, c'est Shiva avec 6 bras et on devrait avoir dans notre salon une grande photo et on est en train de se prosterner. Ouh, ça, c'est vraiment pas bien. Ouf, ça va. Moi, je n'ai pas cette photo-là dans mon salon. Oui. Et donc, on a 10 fois cette image, les idoles comme étant essentiellement des choses moralement pas bonnes. Et en discutant avec Rachel, elle avait un témoignage intéressant parce que des fois, des choses moralement bonnes, vous me suivez, peuvent devenir des idoles pour nous. Est-ce que tu peux peu nous expliquer ça?
Je crois que c'est vrai. Qu'une idole est quelque chose qui est plus important que le Dieu à le temps. Et pour moi, le meilleur exemple est mon premier bébé. Quand j'ai seulement un bébé, pour moi, elle était une idole. Parce que si elle est heureuse, je suis heureuse. Si elle est triste, c'est ma faute. Je dois faire quelque chose pour sauver mon bébé. Et si on me demande, on doit dire non, ce n'est pas vrai. Le Dieu est le meilleur. Il me sauve. Il doit être le Seigneur de mon bébé. Mais en réalité, ce n'était pas.
Les idées claires que oui, c'est Dieu, le vrai Dieu. Mm. Mais je pense que si on faisait un sondage aujourd'hui, tout le monde dit oui, moi.
Oui,
Jésus-Christ, c'est pas le problème.
Mais tous les jours, j'aime être le Seigneur de mon bébé. Je crois que quand j'avais plus des enfants, c'est plus facile à rappeler que le Dieu est le Seigneur. Mm. Mais si maintenant, il y a beaucoup de jours, mais je fais les choses sans regard pour les dieux. Et en réalité, je crois que je suis le Seigneur pour les enfants et pour moi. Et encore, si vous me demandez, je dire le correct
réponse. La bonne réponse, c'est Dieu.
Je sais, c'est le verse 12. C'est lui qui a le fils à la vie. Et je dois remercier que c'est vrai. Et sans la fille, il n'y a pas la vie.
Sans le fils, il n'y a pas de vie.
C'est une bonne chose pour me rappeler tous les jours que il n'y a rien qui est bon sans le Dieu. Je dois faire la vie comme ça chaque jour parce que le monde me dit que je suis suffisant. Mais je sais que sans Jésus-Christ, je n'ai pas rien.
Merci beaucoup, Rachel. Voilà, comme illustration de ça, dans notre vie personnelle, et la même chose dans notre communauté. Si nous commençons à aimer en tant que communauté autre chose que Christ, en mettant autre chose que Dieu à la première place, que Jésus-Christ, nous allons partir dans une mauvaise direction. Gloire à Dieu que ce n'est pas le cas, qui nous aide à rester sur le bon chemin. Et lisons encore cette parole de Jean. Il nous écrit pour que nous sachions, pour que nous demeurions dans le vrai, en Jésus-Christ. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, nous te prions que tu continues de réformer notre pensée, que tu continues de mettre Christ en premier, en avant dans notre vie, que nous puissions considérer son témoignage par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous, qui nous révèle toutes ces choses, combien il s'est identifié à nous, en tant qu'être humain, combien il a été jusqu'à sacrifier sa propre vie, combien il est digne d'être le Seigneur de nos vies, dans toutes les choses du quotidien, comme dans les grandes orientations de notre vie. Seigneur, que tu nous conduises à être une communauté authentique qui demeure dans le vrai, dans ta parole, en communion avec toi et avec ton Fils par le Saint-Esprit. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.